Devenir lanceur d'alerte. Une production de la revue Les Périphériques vous parlent avec le philosophe et journaliste d'investigation Roger Langlais. Cinquième partie.
Faut-il prendre des précautions juridiques avant de lancer une alerte ?
Si on veut éviter les procès, oui, il vaut mieux. Alors déjà, effectivement, avant de lancer l'alerte, pendant l'enquête, bon, il n'y a pas énormément de précautions à prendre sur le plan juridique, mais quand même quelques-unes. Par exemple, il faut éviter de dire trop de mal ou d'être diffamatoire vis-à-vis de certains témoins quand on parle à d'autres témoins éventuels. Dire du mal de quelqu'un, ça peut toujours faire l'objet de poursuites, surtout si ces gens deviennent ensuite des ennemis virulents qui peuvent trouver des témoins
qui montrent
que vous avez, par exemple, ce qu'on appelle une intention de nuire. Bon, donc j'en connais qui ont pu dire, bah, telle multinationale, ils n'ont qu'un rêve, qu'un espoir, c'est de la faire disparaître. Il faut faire un peu comme si on passait dans les médias. Il y a quelques précautions à prendre si on ne veut pas avoir une amende importante. Pendant l'enquête, au-delà de la précaution à prendre vis-à-vis de certains témoins qui risquent de répéter ce que vous avez pu dire, il n'y a pas vraiment de précautions à ce stade. On verra qu'il y en a beaucoup, par contre, au stade du lancement d'alerte. Par exemple, si vous écrivez un livre, que vous faites un article ou des déclarations dans des médias, dans le cadre d'entretien, par exemple, eh bien, oui, là, il faut faire attention.
Si on veut éviter un procès en diffamation.
Parce que lancer une alerte, soulignons que ce n'est pas fatalement porter une accusation, c'est poser une question, essayer de lever un doute, demander une évaluation ou un contrôle.
Alors oui, on peut dire qu'il y a plusieurs formes d'alerte, il y en a beaucoup même, mais lancer une alerte, c'est quand même pas seulement exprimer un doute ou une inquiétude, c'est quand même amener quelques éléments montrant qu'il y a matière à inquiétude. Et ces éléments, ça peut être des études scientifiques qui mettent en exergue des risques, qui montrent l'ampleur des dégâts s'il s'avérait que, par exemple, le produit en question est toxique ou très toxique. Donc c'est un certain nombre d'ingrédients. Lancer une alerte, c'est pas juste exprimer des pensées qui nous traversent sur la dangerosité éventuelle de tout et n'importe quoi. Entre l'interrogation première qu'on peut avoir et qui doit être finalement assez systématique, et les stades ultérieurs où on commence à avoir un certain nombre d'éléments ou un faisceau d'éléments plus ou moins corroborés qui étayent l'inquiétude, alors là, vous voyez, c'est autre chose. Donc c'est ce travail préalable de l'enquête qui permet de savoir si ça vaut le coup de lancer une alerte ou pas. Donc à ce stade, pour revenir aux précautions juridiques, je dirais que là, bon, par définition, les seules précautions à prendre pendant l'enquête, au-delà de la diffamation pure et simple, c'est de faire attention dans la manière de se procurer certains éléments, par exemple. C'est vrai que si vous savez qu'il y a des documents très intéressants qui sont déposés dans un endroit et que vous allez les prendre dans des conditions qui sont pas légales, si c'est un vol ou un détournement. Ou... Il faut même faire attention dans certains cas à ce qu'en photocopiant des documents, on ne puisse pas être accusé de détournement et de recel de documents détournés, vous voyez. Bon, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des documents par un employé, par exemple, d'une boîte. Il y a intérêt à ce moment-là quand même à prendre certaines précautions vis-à-vis d'éventuelles représailles. Même en étant journaliste, on peut parfois être un peu embêté et tomber sous l'accusation d'un recel de documents volés. Et alors ça se plaide, ça peut se défendre très bien. Maintenant, il faut savoir là aussi protéger ses sources, qu'on soit journaliste ou pas. Et par exemple, c'est vrai que vous avez le droit de recevoir des documents sans systématiquement vous demander s'ils ont été à l'origine volés, détournés ou pas. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive par exemple de recevoir des dossiers anonymement. Je ne sais pas qui les a conçus, qui a réuni les pièces, comment ils les ont trouvées. Et je reçois ça par la poste. S'il s'avère que ce sont des documents volés, ça se plaide hein, d'avoir reçu des documents, parce qu'on sait que vous enquêtez sur tel sujet, bah, y a des gens qui, anonymement, et la démarche est tout à fait morale, des gens qui ne veulent pas dévoiler leur identité, donc qui ne vous diront pas qui ils sont, etc., mais qui vous envoient anonymement des documents qui permettent de faire avancer un dossier ou donc une alerte. Il faut aussi faire attention aux témoins qui risquent de vous pousser à la faute. C'est-à-dire le témoin qui, pour se venger, par exemple, ou qui aurait intérêt à éliminer un concurrent, etc., va vous dire des choses qui sont fausses et qui vous amèneraient à répéter, donc, finalement, un témoignage diffamatoire. Celui qui colporte le témoignage diffamatoire est lui-même dans la diffamation. Donc ça, au cours de l'enquête, il faut réussir quand même à distinguer un peu les témoins qui peuvent avoir de l'honnêteté dans la démarche et ceux qui peuvent être malhonnêtes. Bon, tout en sachant que la plupart des gens qui parlent ou qui vous apportent des documents le font souvent pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas forcément très claires, mais qui peuvent être quand même des éléments utiles. Donc il faut savoir jusqu'où vous pouvez utiliser à chaque fois donc, un témoignage et bien sûr en vous efforçant de vérifier sa valeur.
au-delà de la légalité, il y a la question de la moralité des méthodes utilisées par le lanceur d'alerte durant son enquête.
Oui, c'est un point très important. La moralité du lanceur d'alerte, en fait, elle consiste pour l'essentiel à savoir résister aux sollicitations, aux pressions, aux menaces, etc. Assez vite, lors de l'enquête, vous pouvez vous retrouver en présence des représentants des industriels, par exemple, qui peuvent vous menacer ou éventuellement vous solliciter en disant qu'en travaillant ensemble, vous auriez plus d'efficacité. Ça peut être éventuellement un responsable administratif ou politique qui vous propose des avantages en échange de votre silence, d'une manière d'émousser vos informations. Donc en fait, l'épreuve de moralité pour un lanceur d'alerte, elle a lieu tout le temps. Et puis savoir résister à ses propres tentations, éventuellement, de caricaturer l'information, de la grossir pour lui donner plus d'impact, etc. Il faut donc en permanence garder des repères éthiques, savoir que, ah non, tous les coups ne sont pas permis, même quand vous pensez que les gens auxquels vous vous attaquez sont, eux, complètement dans l'immoralité ou sont de grands cyniques, etc. Donc il n'est pas possible, évidemment, d'effacer cette perception. Ce serait même pas bon. Si vous avez affaire à des industriels particulièrement cyniques ou même qui sont criminels dans leur attitude, à la fois qui consiste à dissimuler la toxicité d'un produit, sa cancérogénicité par exemple, et qui mentent délibérément et dont l'action finalement est criminelle, là aussi il faut savoir d'une certaine façon résister à l'envie de caricaturer l'information, etc. Donc il y a un gros travail d'objectivité en permanence à faire et de lanceur d'alerte, il doit prendre garde à ce que sa faculté d'indignation ne s'émousse pas. Et à force de voir beaucoup de dérives, on peut finir par les banaliser inconsciemment. Donc savoir garder sa faculté d'indignation, c'est la base normalement du lanceur d'alerte, et du journalisme d'ailleurs, d'enquête en général, hein, ou du journalisme tout court.